Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Funkadelica. Comme un lundi sur deux, chaque semaine inter, c'est votre émission Soul Funk Hip Hop de référence.
Bien sûr, de référence.
Mais oui, et ce soir, derrière le micro, il y a Lucie qui est avec nous.
Oui, bonsoir.
Vous avez entendu Nono Chaman également.
Salut.
Et puis notre ami Nico.
Salut, salut tout le monde.
Qui n'est pas loin.
Je suis là.
Voilà. Ce soir, on va vous proposer une émission spéciale. Parce qu'on a. On a un artiste qui vient à Angers, ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu. Enfin, un artiste, un groupe, General Electric. Et ce vendredi au Shabada, en concert au Shabada. Et on s'était dit que c'était l'occasion de faire une spéciale claviériste.
Mais oui, c'est l'occasion.
Crazy Keyboards, c'est le titre de cette émission, avec comme ça à la fois des claviéristes connus, qu'on fait des trucs très bien, ou alors des morceaux de clavier qu'on retrouve dans certains morceaux également, qui sont assez spécifiques. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire un petit peu un tour d'horizon. Alors il y aura tout, hein, il y aura du Rhodes, de la Monde, du clavinet, du Moog, du harpe, enfin voilà, etc. etc. On n'a pas forcément sélectionné un type de clavier ou de synthétiseur particulier, mais voilà, on avait envie de se faire un petit plaisir. Et puis vous allez pouvoir retrouver également une interview de General Electric dans le courant de l'émission, et on va vous faire gagner aussi des places pour le concert de vendredi.
Parce qu'on est vraiment trop cool.
Exactement.
Il y a deux places à gagner.
Il y a deux places à gagner, donc restez bien à l'écoute puisqu'on vous dira comment vous allez pouvoir les gagner, surtout. Mm-hmm. Et on commence par un claviériste producteur de talent qui a été énormément samplé.
Oui,
je vais te laisser le présenter.
Énormément samplé, énormément influent aussi dans toute la scène jazz chez CTI, mais aussi jazz funk fusion chez Kudu Records. J'ai nommé Bob James, le grand Bob James, qui voilà, a signé cet album qui s'appelle Sign of the Times. Donc, ce n'est rien à voir avec l'album de Prince, bien sûr, mais c'est un autre Sign of the Times, un autre signe des temps, un autre morceau qui s'appelle d'ailleurs comme ça et qui a été effectivement samplé par un certain groupe de hip-hop US qu'on aime beaucoup, qui s'appelle De La Soul. Vous allez reconnaître le petit gimmick de l'intro, et puis après on va commencer. C'est un morceau un peu smooth, tranquille, pour se chauffer. Vive le clavier.
Très bien.
that's what it is. And here we go again, baby. Still reaching in the 1980s.
Give it
here. And everybody come along. And sing the song. Y'all must quit the set. Cause when the ship hits your hip, better not try to fight. Cause the grip is strong and mighty. When the ocean hits the nose and you start that roll of motion, it'll make you slip, it'll make you dip. And cause a tingling in your hip bone, I want you sing it, baby. We'll be right back.
Ouais, à l'instant, dans Funkadelica, on s'écoutait un claviériste qu'on ne pouvait pas ne pas diffuser dans cette émission Crazy Keyboards. Vous l'avez reconnu, c'est Stevie La Merveille. Stevie Wonder, dans son album Talking Book, un de ses albums de sa merveilleuse période classique, comme on l'appelle. La fameuse période classique. Voilà, donc c'était le morceau qu'on s'est écouté. C'était Tuesday Heartbreak. Voilà, petit clin d'œil au jour de diffusion de l'émission. Et évidemment, nous, c'est tout le contraire d'un heartbreak. C'est un heartbeat qu'on vous donne tous les un mardi sur deux, pardon.
Quel poète.
J'adore.
Et juste avant, c'était un autre claviériste de talent, monsieur George Duke, le bien nommé, avec le titre Son of Wish for It. En fait, c'est la suite du titre qui s'appelle Wish for It, qui est sorti sur l'album du même nom en 77. Et là, en fait, une espèce de suite ou de réinterprétation de ce morceau un peu mythique, un peu P-Funk dans l'esprit, qui proposait dans l'album Dream On, sorti en 1979. Et ça aussi, c'était très très bon. Et pour continuer dans les claviéristes funky, on va continuer avec monsieur Jen Harris, qui nous fait une réinterprétation de Sly and the Family Stone, le fameux Don't Call Me Nigger White, un brûlot, voilà, un peu revendicatif, pro.
Exactement,
pro black. Et là, sa version avec ses claviers fous, vous allez voir tout de suite si vous ne connaissez pas cette formidable version. Et c'est seulement dans Funkadelica. Et restez bien à l'écoute. On vous dit comment vous allez pouvoir gagner les places de General Electric tout à l'heure dans l'émission. Restez bien attentifs.
Yeah. Yeah.
Jean Funkadelica pour la spéciale Crazy Keyboards.
On était en plein dedans là.
Et oui, spécial claviériste. Et on avait juste derrière monsieur Bernie Worrell, l'excellent clavier du Parliament Funkadelic, celui qui a donné ce sonorité un peu acide là sur les morceaux du P-Funk. C'était le titre Much Trust et c'est extrait de son premier album solo qui était sorti en 78, qui s'appelle All the Who in the World, avec bien sûr monsieur George Clinton derrière à la production. Forcément, c'est là, encore la grande époque du P-Funk à la fin des années 70, et donc ça se ressent également sur cet album. Et juste avant,
on avait Fred Wesley and the GBs, le morceau Blow Your Head, donc avec au clavier Bobby Bird, un des meilleurs potes de James Bond, comme on disait tout à l'heure. Ils se sont rencontrés à la sortie, en prison, alors que James était en train de purger une peine. Il avait 19 ans, donc ils se sont rencontrés au moment juste avant de sortir de prison. Et donc Bobby Bird était chanteur et musicien. Et donc ils ont monté un groupe et donc ils ne se sont pas quittés, donc ils ont grandi musicalement ensemble, ils ont joué beaucoup ensemble et jusqu'à la mort de James. Et donc Bobby est mort quelques mois après James.
Voilà. Il a pas supporté.
C'est ça.
Ouais, ils étaient liés quoi, ils sont deux destins qui se croisent et qui ne se lâchent pas.
Quand on dit que la prison ça sert à rien, comme quoi c'est vraiment des conneries.
Et donc c'était l'album Damn Right I Am Somebody, sorti en 1973.
Et on va enchaîner avec un autre grand nom.
Ah bah oui,
une superstar même.
Si j'ose dire, un autre gros score de la famille en or. bien sûr, Herbie Hancock, bien sûr.
H.H.
Impossible à ne pas citer dans les claviéristes de renom, avec cet album qui s'appelle Secrets. Voilà, et un morceau qui s'appelle Spider, l'araignée. Voilà.
Eh bien.
Qui n'a pas été retenu pour le générique du film, du blockbuster, mais
grave.
Qui aurait pu. Hein,
c'est pas grave.
Magnifique.
Eh bien, allons-y.
Herbie. We'll be right back.
À l'instant, un petit coup des Ohio Players avec le titre Funky Worms. Et ce son acide là de Moog.
Qui me fait tout de suite penser à la West Coast.
Et bah oui, forcément, voilà, ça a été samplé par Mr. Dr. Dre. Et sur le son West Coast, forcément. Et puis juste avant, on était plutôt du côté de la France.
Ouais, un groupe français avec une actualité. J'ai essayé de caler une petite actu. Donc, groupe Chlorine Free. Donc avec le titre qui porte le nom de l'album d'ailleurs, Mini Rose. Leur dernier album, donc cinquième album, sorti le 15 octobre 2021 chez 73. Et voilà, au clavier, c'était David Monet. Et ouais, je voulais le dire. Il est trop cool, David.
Totalement inconnu, David Monet.
Non, mais par contre, peut-être que dans 20 ans, on fera des émissions spéciales.
Exactement.
Une référence.
Et juste avant, je sais plus. Ah si, juste avant, c'était les Commodores, extrait de leur premier album, le titre Machine Gun. Morceau instrumental qui introduit l'album et qui est, voilà, ce classique funky avec les claviers qui se répondent, voilà, qui envoient du bois, comme on dit. Voilà. Alors juste si quand même on a oublié de vous dire, on voulait vous faire gagner des places pour le concert de General Electric vendredi. Donc c'est très simple, vous allez sur la page Facebook de Funkadelica, c'est Funkadelica Radio Show. Et vous allez voir, il y a une publication qui vient d'être faite. Voilà, vous likez, vous partagez, vous nous dites quel est votre claviériste préféré.
Charlie Oleg.
Et pourquoi pas. Tout est permis. Et vous serez tiré au sort pour gagner une des deux places mises en jeu pour le concert donc de vendredi au Shabada de General Electric. Un concert à ne manquer sous aucun prétexte. Le monsieur a une grosse, grosse réputation sur scène. Et donc, on vous conseille d'être là. Hein, surtout, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu des concerts un peu funky, un peu groovy comme ça
au Shabada.
Au Shabada.
Oui, ça fait un bail.
Et donc, c'est l'occasion d'en profiter. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de se quitter.
Déjà.
Et oui, ça passe très vite. On aurait bien sûr voulu vous en diffuser beaucoup plus parce qu'on en avait encore, bien sûr, sous le manteau des claviéristes de talent. Il y en a énormément, mais voilà, l'émission, c'est forcément trop court. N'oubliez pas d'aller sur le compte Facebook du Funkadelica Radio Show et donc d'aller sur la publication qui concerne donc le jeu concours pour gagner les deux places. Voilà, mise en jeu pour le concert de vendredi de General Electric. Voilà, c'est simple, hein, il suffit de liker, de repartager et de nous mettre dans les commentaires quel est votre claviériste préféré et vous pourrez remporter une des places donc pour vendredi.
Et même si c'est Gilbert Montagnier.
Oui, voilà.
Ça marche.
Vous avez le droit de mettre qui vous voulez.
Il n'y a pas de... C'est tirage au sort.
Il n'y a pas de discrimination, exactement.
Voilà. Vous pouvez mettre qui vous aimez vraiment.
Exactement.
Personne vous en
voudra. Ben, on va peut-être parler de General Electric tout bêtement aussi.
Eh bien, allons-y.
Allez,
c'est parti.
Que tout le monde ne connaît pas non plus, hein, à la base. C'est un projet musical électropop, mais très inspiré par le funk, la soul, le rock, fondé par un certain Hervé Salters, qui on l'appelle Hervé comme on en connaît chez nous. Juste le R élevé, ça suffit pour ses petites initiales. Donc, fondé en 2003, c'est lui qui compose et qui arrange les albums de General Electric et il retrouve tous ses musiciens pour les concerts, par contre. C'est vraiment un claviériste spécialiste des instruments des années 60-70, comme le clavinet, le Rhodes ou le fameux Hammond. Il jouait des claviers pour divers artistes quand il était à Paris, comme Femi Kuti, Vert Coquin ou DJ Mehdi. Il va s'installer ensuite à San Francisco en 1999 et c'est là qu'il a commencé à travailler sur ce qui allait devenir donc General Electric. Une fois en Californie, eh bien il s'est rapidement associé au collectif Canoon Project, que moi je ne connaissais pas, mais qui est composé de Black Alley Shoes, Lyric Sborn ou encore Pigeon John. Et il a commencé à travailler pour eux. Et là, eh bien, l'actualité, c'est ce qui s'est passé le 24 septembre 2021. Donc, il sortait son 7e album déjà, donc qui se nomme Party Like a Human, sorti chez Vagram Music. Et on reconnaît immédiatement la patte d'Hervé, hein, un mélange d'électro-funk, de soul groovy, où les clavinets, justement, résonnent de plus belle. Dans cet opus, eh bien, il arrive à dépeindre quand même un monde en perdition, en alignation, qui perd de son humanité chaque jour, mais en y ajoutant, comme d'habitude, une touche de groove, le but étant pour lui de faire la fête, comme si on était en 2019, presque, comme si c'était rien
c'est
passé.
Ça, mais... exactement.
Et j'adore la pochette, vraiment plein de références, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous pouvez, et on va donc...
Je vais juste placer qu'on va écouter Party Like a Human à la fin de l'interview d'Hervé, hein, qui va être diffusée là, à l'instant, là, que j'ai eu le plaisir de faire hier.
Oui, t'as eu
hier.
Le plaisir de dire.
Et oui.
Tout frais, au téléphone.
Avec un voilà. Joli... un phoning.
Voilà, on va se l'écouter à la fin et on va terminer par ce titre-là.
Et on se retrouve dans deux semaines, nous, pour une spéciale anniversaire. Notre ami Yo, qui n'est pas là ce soir, mais on lui fait un petit coucou.
Coucou.
Qui fêtera son anniversaire à la radio, puisque vous savez, c'est une tradition depuis le début de l'année.
Et il est né en quelle année ?
Eh bien, ce sera l'année 76.
Ouais.
Spécial 76, et vous allez voir, il y a aussi de bonnes choses. 73, c'était top, mais 76, c'est pas mal aussi.
Ouais, c'est pas mal. Il y a de beaux restes en 76.
Exactement. Ouais. On vous laisse en interview, et on vous dit ciao. Bye bye, à dans deux semaines.
Ciao.
Alors, je suis avec Hervé Salter, Saka, General Electric, qui sera au Shabada dans notre chère ville d'Angers ce vendredi soir dans le cadre d'une tournée qui va s'étaler, il me semble, sur la fin de l'année 2021 et une bonne partie de l'année 2022 dans toute la France à l'occasion du nouvel album Party Like a Human sorti en septembre dernier chez Vagram Music. Salut Hervé.
Salut.
Bienvenue dans Funkadelica et sur Radio G. On est très très content de t'accueillir parce que Funkadelica, ça se caractérise par une ligne musicale funky, groovy, qui balaye pas mal de styles, genre soul jusqu'au hip-hop, en passant par la jazz, la funk. Donc effectivement, on est très content parce que tu fais partie de ces artistes contemporains qui ont toute leur place dans cette émission et qu'on apprécie particulièrement.
C'est génial, merci beaucoup, c'est avec plaisir.
Ouais. Et donc, tu te doutes bien qu'on sera de la fête vendredi soir pour le concert prévu au Shabada.
Ok, excellent.
Et puis cette petite interview que tu nous fais l'honneur de nous accorder, eh bien ce sera l'occasion de parler un petit peu de ton nouvel album, Party Like a Human.
Parti.
Voilà, avec une entrée en matière peut-être que tu vas juger un petit peu originale, mais c'est vrai qu'à Funkadelica, on est très attaché aussi à l'objet vinyle qui, comme tu le sais, met beaucoup en exergue la pochette, notamment elle est visuelle. Et comme première question, et je te rassure, après on va rentrer dans le vif du sujet musical, mais comme première question, c'est vrai que cette pochette, elle nous a interpellés, on l'a trouvée assez passionnante parce qu'on peut passer beaucoup de temps à la regarder, il y a beaucoup de références de la pop culture, il y a beaucoup il y a une impression un peu catastrophique comme ça, mais pas que. Donc j'aurais voulu savoir un peu que dans quel contexte d'élaboration ça s'est fait tout ça et de quel point de vue selon toi ça représente aussi ce qu'il y a à l'intérieur de l'album musicalement.
Ouais. Bah déjà, je veux dire que je trouve ça très bien que tu poses cette question et pas juste des questions sur la musique justement, puisque pour moi cette pochette est importante effectivement. Et la manière dont ça s'est fait, en fait moi j'avais déjà des embryons de certains des morceaux qui allaient être sur l'album, les trois premiers en fait, Party Like a Human, Seeker et Pick Up the Pieces, mais ouais. Les morceaux n'étaient pas terminés, mais j'avais déjà le son vers lequel je savais que l'album allait aller. Et j'avais dans ma tête ce mouvement de trois morceaux qui s'appelle Cosmic Check, qui est sur l'album, qui envisage une invasion extraterrestre aussi.
Ouais, complètement.
Et quand j'ai vu, en fait, j'ai vu la peinture, c'est une peinture en fait que j'ai utilisée pour la pochette, une peinture d'une artiste pop art italienne qui s'appelle Laurina Papellina. Et j'ai vu cette peinture dans un livre d'art, et j'ai totalement flashé dessus, et j'y ai vu un petit peu ce que j'étais en train de faire moi soniquement, mais elle a fait ça avec son pinceau quoi. Et ce qui moi m'a attiré déjà, déjà ça m'a fait rire. Je trouve la manière dont elle détourne la culture populaire, comme tu le dis, et qu'on prend des choses qui sont a priori joyeuses et puis les détourne, les rend acerbes, voire carrément cauchemardesques. J'aimais bien cette idée-là. C'est une espèce de ça, c'est très illustratif. à la manière un petit peu dont Hieronymus Bosch pouvait être illustratif. Je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent Hieronymus Bosch, mais c'est un peintre flamand d'il y a un certain nombre d'années, il y a plusieurs siècles maintenant, mais qui faisait des choses qui étaient c'était comme un espèce de tableau avec plein de choses qui se passaient à l'intérieur, beaucoup de choses décrites. Il y a quelque chose de vraiment cauchemardesque dans sa description et dans l'illustratif qu'il fait. Et la manière dont Laolina Papelina récupère cette approche et en fait une espèce de version 2.0 en utilisant des choses qui sont actuellement. Donc effectivement, quoi, sur la pochette, tu peux voir Bart Simpson, mais il a 3 yeux. Tu peux voir Spider-Man, mais il a 4 bras. Tu peux voir... il y a des détails de Mad Max aussi.
Donald Trump aussi, dans En mauvaise posture.
Exactement, il y a Trump qui se fait chier dessus par l'oiseau de Twitter.
Voilà.
et puis, il y a des extraterrestres, il y a quelque chose de cosmique, je trouve, avec, ouais. Tu vois, on voit l'espace en haut de la peinture. Et donc, tout ça me semblait coller avec ce que j'essayais de faire avec le disque, dans le sens où c'est en même temps très fun à regarder, et en même temps assez sombre que ça décrit. Ce que j'ai fait musicalement et textuellement dans le disque, c'est un petit peu similaire dans le sens où c'est une musique sur laquelle tu peux danser, tu vas pouvoir te déhancher, tu vois, sur un morceau comme Party Like a Human.
Ouais.
Mais au niveau des textes et au niveau de la thématique générale du disque, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, puisque le sous-texte principal du disque, c'est la destruction de la planète Terre par l'humain, et entre autres choses. Hein. Mais la manière dont l'humain a un petit peu tendance à tout gâcher, quand on est à beaucoup, on a un petit peu tendance à tout gâcher. Je pense qu'en tant qu'individu, les êtres humains peuvent être des gens brillants, exceptionnels et qui moi m'inspirent. Mais en tant que groupe, c'est que ça devient beaucoup plus compliqué. Donc textuellement parlant, il est plus question de ça, mais le tout sur une musique qui est une invitation, quoi. Donc voilà. Excuse-moi, c'est une explication un petit peu longue, une réponse un petit peu longue à ta question. Mais
bah non, c'est
je suis d'accord.
C'est très intéressant et d'ailleurs ça rejoint complètement la suite de l'interview, parce que c'est vrai que à l'écoute cet album, on était à peu près tous d'accord dans l'équipe, ça nous a donné vraiment l'impression d'un concept album en fait, qui va justement chercher plusieurs univers, plusieurs atmosphères, avec toujours bien sûr les marqueurs funk groove, hein, qui sont hyper importants et qui sont hyper présents. Mais on s'est posé la question aussi, alors on cite souvent Stevie Wonder, hein, comme une de tes références principales, clairement.
Ouais, ouais, ouais.
Mais on a trouvé que sur cet album en particulier, il y avait peut-être des influences peut-être un petit peu nouvelles, autres, un plus contemporaines peut-être, enfin, je sais pas. Et puis en parallèle de tout ça, peut-être aussi c'est un album qui est profondément ancré dans son époque, donc c'est peut-être pour ça que le côté contemporain peut ressortir du son. Et peut-être que aussi il y a un contexte forcément écologique, sociétal, qui tu en as parlé un petit peu, hein, mais qui peut aussi s'insérer dans les influences et dans tes sources d'inspiration, quoi.
Ouais, absolument. Ouais, c'est-à-dire que effectivement, je continue à avoir un pied musicalement parlant dans des choses que j'écoute depuis très longtemps. Tu vois, tu parles de Stevie Wonder, effectivement, ou Sly and the Family Stone, ou des choses aussi plus pop. Hein. Moi, je suis très fan des Beatles ou de David Bowie. Tu vois. Ouais. De jazz, de musique de film, de rock aussi. Enfin, tu vois, je suis très fan d'Hendrix, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai juste un pied là-dedans. J'ai toujours considéré que c'était moi, j'ai appris des maîtres, quoi. Tu vois. Et puis, moi, à mon tout petit niveau, enfin, je me considère toujours comme un étudiant, en fait. Tu vois, et les maîtres, c'est justement ces gens-là. Et j'ai envie de garder un pied là-dedans, mais c'est important pour moi aussi de faire de la musique au présent, c'est-à-dire de me sentir heureux de faire de la musique en 2021 et donc de continuer d'écouter des choses qui se font maintenant et qui me plaisent maintenant, tu vois. Et parfois ça veut dire faire un petit effort, tu vois, parce que quand tu fais de la musique depuis un petit moment, tu peux avoir tendance à t'asseoir un petit peu sur tes lauriers niveau goût, et je trouve ça important, enfin en tout cas moi ça me fait plaisir et ça me fait du bien de rester connecté avec ce qui se fait. Et maintenant, l'idée, c'est de pas devenir une girouette, tu vois, et de te mettre à juste pour chasser les sons qui se font actuellement et essayer d'intégrer ça dans ton truc, mais plutôt de juste se laisser bercer par ça et laisser tous ces éléments-là rentrer dans ton ADN et incorporer ça dans ton petit filtre à toi, quoi.
Mais écoute, ça me semble parfaitement réussi dans cet album. En tout cas, on était tous bien d'accord là-dessus dans l'équipe. Donc,
super, merci beaucoup. Et au niveau, tu demandais s'il y avait des influences récentes.
Ouais.
Je peux t'en donner quelques-unes, effectivement. Je sais pas si on peut parler d'influence dans le sens où je pense pas que ça a un impact aussi majeur sur moi que enfin les artistes qu'on a cités là à l'instant, mais par contre c'est vrai que ça me réveille et ça crée des étincelles en fait, tu vois, et donc du coup et ça te donne envie de faire quelque chose et de te surprendre toi-même. Et il y a par exemple un disque de c'est un groupe du hip-hop indépendant que j'adore, qui s'appelle Shabazz Palaces, qui est pas très connu, hein. C'est en fait Ishmael Butler de Diggable Planet. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Ah,
ça,
oui.
C'est
Diggable Planet, on connaît, on aime beaucoup.
Ouais, moi j'adore ça. Et Ishmael Butler, c'est un rappeur que j'adore. Et lui, il a monté un duo de hip-hop expérimental à Seattle longtemps après Diggable Planet, qui est génial. Et c'est ça, là, Shabazz Palaces. Et il y a un album tout particulièrement qui s'appelle Born on a Gangster Star, qui est un truc qui m'a vraiment renversé. Et ce disque-là, par exemple, je l'ai beaucoup écouté au moment où j'étais en train de faire Party Like a Human. Et je pense que les morceaux, tu vois, les deux morceaux avec rappeur qu'il y a sur le disque, Electric Pigeons avec la titre The Truth Speaker, ou One Foot in the Grave avec Quelle Chris,
ouais.
Clairement, je pense qu'ils ne sonneraient pas exactement comme ils sonnent actuellement si je n'avais pas écouté ce disque-là, tu vois. Il y a d'autres choses, ouais, d'autres choses plus récentes. Moi, j'aime beaucoup cette scène de LA avec Steve Lacy ou Sam the Cat ou ce genre de gens qui sont en même temps des super compositeurs et des frontman, mais ce sont aussi des instrumentistes, tu vois. Et comme moi, je viens de ce monde-là aussi, je suis claviériste avant tout, moi, tu vois. D'entendre d'autres mecs comme ça qui sont forts sur leurs instruments, enfin je me prétends pas du tout aussi fort que Sam the Cat, mais disons qu'ils sont des gens qui mettent l'accent sur le fait d'approfondir le jeu, tu vois, sur un instrument et qui en même temps vont de l'avant musicalement et essayent de créer quelque chose qui a un pied dans la pop aussi, pop au sens large, hein, c'est-à-dire une musique qui peut plaire à un petit peu un plus grand nombre, tu vois.
Ah, bien sûr.
Ça, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur et je trouve que c'est quelque chose dans la musique populaire actuelle qui peut être un petit peu, enfin qui manque un petit peu à mon goût. C'est-à-dire que si j'écoute Énergie ou j'écoute des gros réseaux commerciaux, j'entends pas beaucoup d'instruments en fait. Enfin, j'entends pas beaucoup d'instrumentistes. Tu vois ce que je veux dire? On peut entendre des instruments, mais c'est souvent très quantifié, c'est tellement trafiqué dans l'ordi, etc., qu'en fait, on n'entend plus les performances d'instrumentistes. Et donc, ça me fait beaucoup de bien d'entendre des gars comme les gars que je citais là. Et puis, il y en a plein, hein, actuellement, mais qui reviennent avec vraiment de la musicalité, quoi. Et qui font quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre, mais tout en étant très, très solide, harmoniquement, mélodiquement, au niveau technique, etc. Et puis, pour ce qui est de, tu parlais aussi, textuellement parlant du côté actuel du disque, effectivement, et du côté concept, disque concept, effectivement, il y a de ça. Et c'est marrant que tu dis ça, parce qu'en fait, à la base, je pensais faire le disque entier au sujet de l'invasion de la planète Terre par les extraterrestres. Okay. Et l'idée étant, c'était pas de faire un truc gag ou un peu gadget, mais de regarder la réaction de l'humanité face à ça, tu vois. Comment est-ce que se comporterait, comment est-ce qu'on se comporterait en tant que personne qui habite depuis longtemps sur cette planète si on était face à un ennemi commun? Est-ce qu'on s'unirait ou pas, tu vois? Est-ce que ce serait chacun pour soi? Est-ce que ça nous ferait réaliser qu'on est tous dans le même bateau et qu'ensemble on est plus fort, tu vois? Et finalement, j'ai reculé un petit peu parce que je me suis dit que faire un disque entier là-dessus, ça risquait d'imposer une grille d'écriture à tous les morceaux, qui pouvait faire souffrir certains morceaux, tu vois. Je suis assez partisan, moi, du fait de se laisser porter par un morceau. C'est-à-dire que le morceau, l'étincelle, elle vient de toi, mais assez rapidement, le morceau, il te dicte un peu ce dont il a besoin, tu vois. Et si tu essayes de toi lui dicter trop, ben non, il faut que ça parle de ça, il faut que ce soit sur ça, parce que au niveau du narratif, dans le concept album que je suis en train de faire, il faut que ce morceau parle de ça, ou tu vois, ou aille vers, tu vois, dans ces directions-là, ou quoi. Tu te fermes un petit peu des portes, je pense. Donc j'ai raccourci le concept à, en tout cas pour ce qui est de l'invasion extraterrestre, à ce mouvement de trois morceaux dont je parlais un petit peu plus tôt dans l'interview.
Ouais.
Et le reste du disque est quand même par extension, c'est quand même par extension là-dessus, en fait, cette même idée. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour faire en sorte que les humains s'unissent, quoi? Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que tout le monde finisse par réaliser qu'on est vraiment tous dans le même bateau, perdus sur notre caillou dans l'espace? Et que ce qu'il y a eu dans l'espace, il faut y faire très attention et qu'il faut arrêter de faire ce qu'on est en train de faire, quoi.
Ouais, et tout ça, bon, c'est peut-être certainement de là que vient cette impression de cohérence générale, malgré la variété des morceaux. On parle un petit peu de vendredi ?
Eh ben avec plaisir.
Parce que nous, on est très très contents que tu viennes dans notre charmante petite ville et pour t'avoir déjà vu en concert, on sait que sur scène, alors là pour le coup, on va associer aussi tes musiciens, hein, parce que c'est vraiment un show à part entière, c'est vraiment électrisant dans tous les sens du terme. Et puis vous vous donnez vraiment, il y a une grosse énergie, un gros don de soi, je dirais même visuellement autant que musicalement. Du coup, bon, j'imagine qu'on attend aussi du coup de la salle un retour de cette énergie. Moi, je voudrais savoir si tu avais des souvenirs un peu plus particuliers par rapport au Shabada, par rapport à Angers, parce que je sais que tu es déjà passé par chez nous, voilà, et si c'est pas le cas, je couperai au montage.
Donc si c'est pas des souvenirs, comment dire, je vais pas pouvoir te donner une anecdote ou quoi, mais par contre je me souviens très bien de passer au Shabada, effectivement on est passé deux fois je crois, et à chaque fois de trouver ça vraiment super. La salle est géniale, l'accueil est excellent, et moi, j'ai des souvenirs de grosses énergies et d'effets miroirs d'énergie, comme tu dis. C'est-à-dire que nous, on arrive sur scène et on balance quelque chose, tu vois. Mais bon, il faut être deux pour danser le tango, tu vois. Mmh. Et un concert, ça se fait pas juste avec des musiciens sur une scène, ça se fait avec un public aussi. C'est ce que le public nous renvoie qui fait que nous, on peut peut-être essayer d'aller plus loin et qu'eux aussi vont peut-être essayer d'aller plus loin, etc. Il y a une espèce d'effet ping-pong qui se fait. Et j'ai souvenir vraiment de ça au Shabada.
Ah, bah,
et c'est quelque chose. C'est un petit peu pour. C'est la raison pour laquelle on fait des concerts nous. Hein. C'est essayer de créer ensemble, pas juste nous sur scène, mais avec tout le monde, un instant un peu exponentiel, un peu particulier, qui nous fait planer tous. Tu vois, comme si on était un peu 5 cm au-dessus du sol, du fait de ce partage d'énergie et qui font un petit peu oublier tes soucis l'idée étant de sortir de là avec un gros sourire sur la bouche et puis avec un petit peu d'espoir en ayant un petit peu réfléchi aussi, tu vois, parce que il y a un côté musique un peu savante dans General Electric, même si effectivement sur scène on met en avant vraiment plus l'énergie, le groove et puis ça danse, ça saute sur scène, etc. Et puis les lights, on arrive avec un show lumière qui est vraiment exceptionnel, qui a été monté par un gars qui s'appelle Dimo Delaunay, qui travaillait avec nous à l'époque déjà des tournées de Good City for Dreamers et Parker Street, et puis après il a déménagé à La Réunion, donc il ne pouvait plus être en tournée avec nous, mais ça y est, il est rentré dans la métropole, donc il est de nouveau avec nous, et il a conçu quelque chose, moi, que je trouve vraiment fantastique, donc je pense que ça va vraiment faire plaisir aux gens.
Ben écoute, on a vraiment, vraiment hâte d'y être, et puis on te remercie d'avance hein, pour ce que tu vas nous donner, ce que toi et tes musiciens allez nous donner.
Juste ouais. Un petit truc,
ouais.
Rapport aux musiciens, je voudrais donner leur nom, parce que c'est important, oui. Et puis, parce que c'est vraiment, quand General Electric ça arrive sur scène, c'est vraiment pas juste moi, c'est vraiment, ça devient vraiment un groupe, même si les disques, c'est plus moi qui les fais. Mm. Et donc il y aura Jesse Chaton à la basse et à la basse synthé, qui est avec General Electric depuis le tout début, en fait, Jesse, puisqu'il était là au moment de la toute première tournée en 2004, donc ça remonte vraiment. Et il y a Eric Sargent qui est à la guitare, qui est avec la formation depuis très longtemps aussi. Il y aura Thomas Milto qui nous a rejoint il y a deux tournées maintenant, c'est la deuxième tournée qu'il fait avec nous à la batterie et puis à la MPC. Et il y a un nouvel arrivant qui s'appelle Guillaume Lantonnet, qui est un musicien exceptionnel, qui va faire vibraphone, batterie, clavier additionnel, percussion. Et voilà, et tous ensemble, ça va donner des réelles réinterprétations des morceaux. Et ce sera pas, l'idée, c'est vraiment pas juste de reproduire le disque, quoi.
Bah écoute, on a hâte d'y être, vivement vendredi. Et puis je vais te remercier encore une fois pour cette interview qui vraiment nous honore et puis voilà, qui nous met bien bien l'eau à la bouche pour vendredi.
Bah c'est génial, merci beaucoup à vous hein, pour le soutien et puis à vendredi effectivement.
Merci beaucoup Hervé. On se quitte sur justement avec Party Like a Human comme mise en bouche de vendredi.
Merci, ciao.
Ciao. Oh,
like a human, yeah. Party like a human. Party like a human, yeah. Party like a human.
FM.